Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans l'Évangile aujourd'hui, nous voyons notre Seigneur envoyer les lépreux aux prêtres pour être purifiés. Montrez-vous aux prêtres, dit-il. Et le catéchisme du Concile de Trente, à la suite des Pères de l'Église, a vu dans cet Évangile l'image du sacrement de la pénitence qui nous purifie de la lèpre du péché. C'est donc l'occasion pour nous d'examiner une question très pratique concernant la confession fréquente. La question qui se pose est celle-ci: comment se fait-il que d'après des années de confession régulière, tous les mois ou même toutes les deux semaines, comment se fait-il que je m'avance si peu dans la vie spirituelle? D'abord, il faut répondre qu'on fait sans doute plus de progrès qu'on le pense et que ça serait certainement pire sans la confession. Mais on peut tout de même se poser pourquoi je ne fais pas plus de progrès. Le problème n'est certainement pas dans le sacrement lui-même. C'est peut-être que nous ne savons pas nous accuser. La confession, bien comprise, peut être un moyen très puissant pour développer notre vie spirituelle, mais à condition de bien s'y prendre. Alors avant de rentrer dans le sujet, je veux donner juste quelques précisions. Il ne s'agit ici que de la confession, qui n'est qu'une partie seulement du sacrement de la pénitence. Dans ce sacrement, il y a quatre choses. Il y a d'abord le regret de nos péchés, donc c'est la contrition. Ensuite, l'aveu de nos péchés, c'est-à-dire la confession, les dire au prêtre. Et après, l'absolution donnée par le prêtre de nos péchés. Et enfin, la satisfaction pour nos péchés, donc c'est-à-dire la pénitence que le prêtre nous donne à la fin, donc quelques prières ou une bonne action. Le sacrement consiste essentiellement dans l'absolution qui efface la faute d'un cœur qui se repent. L'aveu n'est pas toujours nécessaire. Par exemple, un mourant qui a perdu l'usage de la parole peut recevoir l'absolution du prêtre. Et s'il a la contrition de ses péchés, c'est valide. Ou bien dans les catastrophes, donc sur le Titanic, les gens qui allaient mourir, donc tout le monde ne pouvait pas être sauvé, et donc là, toute cette foule qui allait mourir dans quelques instants, il y avait un prêtre sur le pont du bateau qui donnait une absolution générale aux gens. Il n'avait pas le temps d'entendre l'aveu des péchés de chacun en particulier, mais si les personnes avaient la contrition parfaite, ils pouvaient recevoir l'absolution. Et plus étonnant encore, c'est que Dieu peut même se passer du prêtre. Dans le cas, par exemple, de quelqu'un qui fait un acte de contrition parfaite et meurt sans voir un prêtre. Vous connaissez peut-être l'histoire dans la vie du Saint Curé d'Ars, donc une dame qui est venue voir le Saint Curé d'Ars, qui était toute éplorée, elle venait de perdre son mari. Et elle expliquait que son mari, il a sauté d'un pont pour se tuer. Et le Saint Curé d'Ars l'a rassuré. Il avait une révélation. Il savait comment ça s'est passé. Il dit ne vous inquiétez pas pour le salut de votre mari. Entre le pont et l'eau, il a eu le temps de regretter son péché. Il a fait un acte de contrition parfaite. Et il est maintenant au purgatoire. Alors, évidemment, c'est des cas très, très rares, mais ça montre que c'est possible. Par contre, ce qui n'est pas possible, c'est que le Dieu ne peut jamais remettre un péché qu'on refuse obstinément de regretter, ou un péché qu'on ne voudrait jamais avouer à un prêtre s'il avait la possibilité de le faire. Mais beaucoup semblent penser que l'essentiel de ce sacrement de la pénitence et l'accusation des fautes. Ils font des efforts parfois héroïques pour être complets, quand il faut surtout s'inquiéter d'être contrit. Notre devoir ne consiste pas à dresser une liste bien au point, recevoir l'absolution et puis nous en aller libérer. Il s'agit plutôt d'exprimer notre regret d'avoir offensé le bon Dieu que nous aimons de tout notre cœur. Bien sûr, s'il s'agit des péchés mortels, alors là, autant qu'on peut, il faut les dire tous. Mais c'est toujours le regret de nos fautes qui est le plus important. Alors, en conséquence, pendant la préparation immédiate de la confession, il faut penser moins à l'examen de conscience et plus à implorer la grâce de Dieu pour obtenir un sincère regret de nos fautes et exprimer par avance notre contrition et notre intention de nous corriger. C'est pour ça que, justement, c'est la coutume de dire avant la confession, le « je confesse à Dieu », soit en arrivant devant le prêtre, soit en attendant dans la queue. On peut aussi dire l'acte de contrition en attendant la confession. Alors, voyons maintenant la manière de se confesser. Donc, nous allons voir quel péché nous devons confesser. Et puis, à la fin, on va voir, faire un petit mot sur le ferme propos qui doit être bien compris. Alors, quel péché devons-nous confesser? Il est dit dans le livre des Proverbes que même le juste tombe 7 fois par jour. Il serait impossible de dire tous les péchés que nous avons commis dans la journée. Donc, il faut faire un choix. D'abord, c'est évidemment tout péché mortel. Il faut les dire tous et il faut en dire le nombre. Et aussi les circonstances qui peuvent aggraver ou changer l'espèce du péché. Ça, c'est obligatoire. Parce que voler, par exemple, dans un magasin n'est pas le même péché que de voler dans le panier de quête à l'église. Ça serait un blasphème, pardon, une profanation, sacrilège plutôt, en plus que le vol. Mais quand il s'agit de nos péchés véniels, nous sommes plus libres. Donc nous sommes obligés, pardon, nous ne sommes pas obligés de les dire tous, comme pour les péchés mortels, parce que ces péchés véniels peuvent être pardonnés par d'autres moyens que la confession. Par exemple, en assistant à la messe, en donnant des aumônes, en usant avec foi de l'eau bénite, ou en disant des actes de foi, l'espérance de charité, etc. Toutefois, nos confessions seront plus ou moins fructueuses selon le choix que nous faisons dans notre examen de conscience et les accusations de nos péchés véniels. Voyons d'abord comment il ne faut pas faire, justement. Certains oublient que le péché est un acte. Ce n'est pas un état. Ils exposent leur tendance, donc je suis impatient, je suis gourmand. Mais là, nous sommes tous plus ou moins impatients et gourmands. Il faut avouer des actes. On peut très bien avoir tendance à mentir, par exemple, sans avoir menti depuis sa dernière confession. Et si on a menti, il faut dire « j'ai menti » et non pas « je suis menteur ». Mais de notre côté aussi, il ne suffit pas de dire seulement « j'ai menti » ou « j'ai manqué à la charité », « j'ai désobéi ». Cela n'apporte aucune précision permettant au confesseur de voir en quoi notre cas est différent des autres. À une confession standard, impersonnelle, il ne peut que donner des conseils standards et généraux. Notre Seigneur nous dit dans l'Évangile aujourd'hui, « Montrez-vous au prêtre. » Et que dirions-nous d'un malade qui cacherait sa maladie au médecin? Alors, comment s'accuser alors? Rappelons-nous que la confession est un exercice d'humilité fondé sur la connaissance de soi et l'aveu de ce qui gêne le progrès spirituel. Il est donc évident que ce n'est pas la peine de se confesser si on va choisir les péchés les plus insignifiants et cacher les péchés les plus embarrassants. Un examen de conscience bien fait tendra à repérer dans la multitude de nos fautes quotidiennes celles qui sont les plus dangereuses pour notre âme, soit à cause de leur fréquence, soit à cause de leur malice. 5 ou 6 péchés bien choisis suffiront à nous montrer tels que nous sommes aux yeux de Dieu. Mais c'est à condition de décrire ces péchés avec leur couleur propre. Alors reprenons notre exemple. J'ai menti. D'accord, vous avez menti, mais de quelle manière? À qui? Dans quelles circonstances? Si c'était à un ami qui est malade pour éviter de lui rendre visite, alors c'est un péché contre la charité. Si c'était pour tromper un client, c'est un péché contre la justice, et ainsi de suite. Donc il faut accuser des actes précis, déterminer les circonstances et chercher les mots les plus aptes à exprimer la faute telle qu'elle a été dans la réalité concrète, en tant que notre faute et non pas celle de notre. Cela rendra nos confessions très fructueuses. Cela nous oblige de nous voir tels que nous sommes, et c'est une humiliation salutaire. Par exemple, dire « j'ai mangé un peu trop de gâteau », c'est assez facile à dire. Mais de donner des détails, en disant « j'ai attendu que tout le monde soit parti pour revenir prendre 5 parts de gâteau tout seul », ça c'est un peu plus humiliant. Mais ainsi, le confesseur verra l'état de notre âme et il pourra nous donner des conseils appropriés. Cependant, il est important de nous accuser avec précision et éviter le bavardage. Trop d'explications, trop de digressions, et le confesseur finira par se perdre. Et bien sûr, il ne faut pas non plus transformer la confession en une sorte d'apologie où on se donne des excuses pour ses péchés, où on parle des fautes d'autrui. Donc, pour résumer, pour la confession de nos péchés véniels, il faut choisir juste quelques actes précis que nous avons commis qui représentent bien nos défauts dominants, ceux qui font obstacle à notre perfection. Il faut les accuser avec précision, mais brièvement, pour que le prêtre puisse se faire une idée juste de l'état de notre âme. Et le tout doit être fait avec un grand regret d'avoir offensé Dieu et le ferme propos de ne plus recommencer. Alors, pour finir justement au sujet de ce ferme propos de ne pas recommencer, parfois on doute de son ferme propos de ne plus recommencer à cause de l'expérience malheureuse de notre passé, de nos rechutes. Mais il faut distinguer. Prévoir qu'on retombera, ce n'est pas la même chose que de vouloir retomber. Pour nous pardonner, Dieu ne nous demande pas d'être sûr de ne plus retomber. Il nous demande seulement d'avoir l'intention de faire ce qui est en nous avec l'aide de sa grâce pour éviter le péché à nouveau. Et cela suffit pour exclure l'insincérité ou l'hypocrisie. Le sacrement de pénitence applique à notre âme malade le sang expiatoire et méritoire de Jésus-Christ. Ça veut dire que nous recevons non seulement le pardon, mais aussi des grâces de guérison et de force pour les luttes nouvelles, et précisément sur le plan des péchés que nous avons confessés. Alors, mettons notre confiance en ses grâces et non pas dans notre bonne volonté. Nous demandons ses grâces justement au cœur immaculé de Marie en ce jour de sa fête, même si on ne fait que mémoire aujourd'hui. Et puis, si vous voulez creuser le sujet, il y a une petite plaquette que nous avons souvent recommandée ici. C'est « L'art de se confesser » par le Père Chéri. Il est sur le portique. Il est cette plaquette est pleine de beaucoup de conseils très pratiques pour améliorer ses confessions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.